Ce soir, Télé-Québec présente le 400e épisode de Génial. Ça fait déjà 10 ans que Stéphane Bellavance et Martin Carly présentent ce jeu questionnaire-là qui s'amuse avec la science. Et on va rejoindre le neuroscientifique, vulgarisateur et maître des expériences, Martin Carly, pour en discuter. Salut Martin!
Bonjour.
Bonjour Martin.
J'ai appris dans mes recherches que Génial, c'était une adaptation d'un concept allemand, sauf que les Allemands en ont fait 79 épisodes. Vous avez décidé d'aller un peu plus loin dans le filon, hein?
Ouais, un peu plus, ou beaucoup plus, hein, je pense qu'on peut dire ça. Effectivement, 79 épisodes en Allemagne, c'était vraiment une émission qui avait un grand succès là-bas. Et puis, ben, de notre côté, on a trouvé assez d'idées pour poursuivre ça sur plus de 400 épisodes, donc on est encore là 10 ans plus tard.
Et justement, les idées, là, rédiger des questions pour un quiz, ça m'apparaît un peu moins compliqué que de produire des expériences originales soir après soir après soir. Comment vous vous y prenez pour concevoir ces tests-là?
Ben, en fait, évidemment, il y a plusieurs sources qui me donnent un coup de main. L'Internet, évidemment, est un puissant fond, bien entendu. Heureusement, la science se renouvelle constamment. Mais je vous dirais que ces idées-là qui me viennent tout le temps, ça peut être en écoutant la radio, en me promenant, en voyant l'actualité, peu importe. Je vous dirais que la clé pour pouvoir soutenir ce rythme-là, c'est vraiment de noter tout ce qui nous passe par la tête. C'est vraiment la plus grande clé. Donc, mon téléphone est plein de notes. J'ai des carnets toujours sur moi puis j'écris tout ce qui me passe par la tête.
Martin, il y a forcément des expériences sur lesquelles vous avez passé du temps puis que finalement, ça aboutit jamais. À quel moment est-ce que vous décidez d'abandonner?
Ah, ben ça, je vous dirais que comme toutes les expériences doivent absolument avoir été testées avant d'arriver en studio, ben c'est grosso modo à peu près deux semaines avant de tourner qu'on dit non, celle-là, elle fonctionnera pas. Il y en a pour lesquels on se dit, ben on a besoin de plus de temps, donc on peut la déplacer dans la saison, la mettre un peu plus tard. Uh-huh. Puis il y en a d'autres, ça, bon an, mal an, on en perd une quinzaine comme ça par année, qu'on se dit, ça marchera jamais.
Okay.
Donc, c'est ça. Donc, par année, on parle de 185 expériences présentées en ondes. On en ajoute une quinzaine à peu près. Là. Donc, grosso modo, c'est 200 expériences par année, donc 15 qui marcheront jamais finalement.
Est-ce qu'il y en a quelques-unes dans l'eau là, qui spontanément, vous pouvez vous les remémorer puis vous dites, OK, celle-là, je suis particulièrement fier de l'avoir faite?
Ben, plein, en fait. Une de mes forces, moi, c'est ma mémoire. Donc, je me souviens d'à peu près tout ce qu'on a fait, même si on en a fait plein. Évidemment, il y en a des très particulières. Je pense toujours spontanément à la toute première qu'on a faite à Génial, alors qu'on avait soulevé un véhicule avec de la colle. Donc, j'avais une grue derrière moi avec un véhicule suspendu dans les airs, tenu seulement par de la colle comme on peut acheter là au magasin.
La crise
dans la classe des super colles comme ça, avec 8 gouttes de colle, on a soulevé une auto.
Hein?
Ça, c'est la toute première expérience de l'histoire de Génial.
8 gouttes, ben j'allais dire, je pensais pas que la crise igloo se vendait en gallon. Mais...
non, exact. Ben justement, pour faire un aparté là-dessus, on a tendance à penser, de façon erronée, que des colles comme ça, plus on en met, plus ça va tenir. Mais en fait, c'est le contraire. Il faut en mettre moins que plus.
Oups.
Parce que si on en met moins, ben cette colle-là peut réagir avec l'eau qui se trouve dans l'air. Puis c'est ça qui la fait durcir. Okay. C'est ça qui la fait polymériser. Donc, si on recouvre toute cette colle mouillée, là, ça marchera pas super bien. Donc, imaginez la preuve ultime. Avec 8 gouttes de colle, on a soulevé l'auto comme ça. C'était absolument fantastique. Il y a l'expérience que j'ai faite plus récemment avec ma fille, bien entendu. Il faut savoir que quand Génial a commencé en 2010, ma fille venait de naître quelques semaines avant.
Okay.
Puis mon audition, je l'ai faite en m'inspirant justement de la réalité de nouveaux parents. J'ai fait une audition où on montrait l'absorption totale de liquide par une couche jetable. Et puis... Ben 10 ans plus tard, j'ai refait cette expérience-là au 300e épisode avec ma fille qui maintenant a 10 ans. Et ça, c'est un moment où particulier. J'ai eu de la misère à finir mon explication tellement j'étais ému. Et puis évidemment, ben on peut pas passer outre toutes les explosions qu'on a faites. On s'est lancé dans le fleuve pour parler d'hypothermie, on a fait du parachute, on a fait de la décalade sur un immeuble de plus de 20 étages de haut. Tout ça en sarrau, bien entendu.
Oui, ben oui. Très important.
Voilà, c'est la signature.
Mais Martin, qu'est-ce qui amène un neuroscientifique là à faire de la télévision? Il me semble dans les stéréotypes qu'on connaît, un neuroscientifique, c'est confortable dans un laboratoire. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la télé?
Deux affaires. La première affaire, c'est que parallèlement à toutes mes études en sciences neurologiques à l'Université de Montréal, je voulais trouver quelque chose pour décompresser, pour me changer les idées, pour pas toujours être dans la littérature scientifique. Puis ce que certaines personnes savent, pas tout le monde, mais c'est que depuis 94, je suis parallèlement à ma carrière scientifique, je suis aussi magicien professionnel, depuis 25 ans cette année.
Arrête
oui,
donc.
Exactement. J'ai fait quoi? 1200, 1300 spectacles sur scène en 25 ans. Et puis ça, évidemment, ça m'a donné la grande, grande piqûre de faire de la scène, faire de la télé, donc d'être comme ça dans les arts de performance, si on veut. Puis entre mon doctorat et mon post-doctorat en sciences neuro et la télé, il y a eu mon passage aussi au Centre des sciences de Montréal, okay. Où là, j'étais impliqué dans tout ce qui était vulgarisation, trouver des nouveaux programmes pour les jeunes, la clientèle et tout ça, créer des démonstrations et tout ça. Donc, c'est par là, finalement, okay. Que je me suis retrouvé tranquillement, pas vite, vers la télé.
Et dors-tu des fois ou pas beaucoup?
Pas tant. Non, pas tant. En fait, je suis quand même assez chanceux. Je suis pas quelqu'un qui a besoin de dormir beaucoup. Je dors en moyenne 4 heures à 5 heures par nuit, à peu près. Ce qui fait que j'écris pas mal sur mon ordi la nuit, c'est parce que ces expériences-là, faut les trouver, mais il faut aussi les écrire. Ça, donc, ces scénarios-là,
c'est extrêmement
faut les écrire,
injuste, ça, les gens qui sont capables de performer 4 heures par nuit. Je suis profondément jaloux de ça, sache-le, Martin.
Ouais, mais j'ai l'impression que mon 4 heures, il tient de moins en moins. Hein. Je pense que c'est quelque chose, je me dis ça depuis longtemps, on dirait que là, en vieillissant, mon 4 heures devient plutôt 6.
Tu te rapproches des simples mortels comme nous, Martin.
Ouais, c'est ça. Je perds du temps pendant la nuit, ouais, c'est sûr.
Martin, j'ai l'impression que vous êtes trois à porter le flambeau de la vulgarisation scientifique au Québec. Il y a Charles Tisser, il y a le pharmachien, puis il y a toi à Québec, on pourrait rajouter Jean-François Clich qui écrit dans le Soleil. On a
oui,
beau avoir ici Explora, est-ce que tu crois qu'on en fait suffisamment de place à la science dans les médias généralistes?
C'est sûr que je pense que plus il y en a de la science dans tous les médias, que ce soit écrit, que ce soit radio, que ce soit télé, mieux c'est. Je pense qu'on va s'en porter mieux. Il y a toutes sortes. On est dans une période où... les fausses nouvelles ont la cote, hein, lorsque tu sais, on sont attirantes ces fausses nouvelles-là sur le web. On parle souvent de certains sujets comme les vaccins, par exemple, comme évidemment les changements climatiques. Il y a encore des gens qui ne croient pas qu'on est en période de changement climatique et d'urgence climatique. Donc moi, je pense que la science faudrait qu'en aille le plus souvent possible. Ce qui me rassure un petit peu, c'est de savoir que les jeunes, ils trippent vraiment sur la science. Moi, quand j'étais au secondaire, là, les sciences, c'était pas si cool que ça.
C'était pour les nerds.
Ouais.
C'est ça. J'étais un peu dans les rejets, moi, parce que je trippais là-dessus. Puis de nos jours, on observe pas mal un renversement. C'est pas mal plus cool de faire des sciences maintenant de nos jours.
Ouais.
Donc ça m'encourage de voir que cette relève-là là, a un intérêt pas mal plus grand pour les sciences que ce que je pouvais observer personnellement quand moi j'étais au secondaire. Je trouve ça encourageant.
C'est drôle, tu parlais des fausses nouvelles, puis aussi des vaccins, là, quand ça concerne tout le monde de la santé. Jean-François Clich, qu'on vient tout juste de nommer, parlait ce matin de l'homéopathie. On a reçu cette semaine un médecin, un vrai médecin diplômé, un médecin de famille, le docteur Drouin de mémoire, là, qui essayait de nous expliquer, je t'avoue humblement, j'ai rien compris et il m'a pas convaincu. Mais un médecin, donc c'est supposé être crédible, qui nous explique quelque chose d'aussi absurde que diluer une goutte de café dans une quantité faramineuse d'eau, ça a des effets sur la santé. Je t'avoue que à ce moment-là, je pensais à l'entrevue d'aujourd'hui, deux jours à l'avance, je me disais, d'après moi, Martin Carlier, l'homéopathie, là, il doit pas trop triper là-dessus.
Non, pas tant, honnêtement. Non, vraiment pas. Écoute, il y a absolument aucun fondement scientifique derrière les prétentions là qui sont proposées par ceux qui voudraient légitimiser l'homéopathie.
Oui.
Au contraire, en fait, le cœur même de ces prétentions-là, c'est le fait que l'eau aurait une certaine mémoire, donc que l'eau se souviendrait de ce qu'il y a eu dedans. Et le pire de tout ça, c'est que les... ceux qui ont proposé ça, écoute, j'ai lu ça, moi, dans les années 80, là, ça remonte à loin, ça, l'histoire de la mémoire de l'eau. ben eux-mêmes, lorsque des experts ont examiné de plus près ce qu'ils ont fait comme travaux, se sont rendus compte qu'essentiellement que leur résultat avait été fraudé essentiellement. Qu'il y avait une fraude carrément dans le laboratoire qui proposait ça. Donc, il n'y a absolument rien là derrière ça qui c'est ça. Okay. Je me retiens dans mes mots, là.
Ouais, c'est parce que je me disais, un scientifique diplômé, tout ça, qui entend la mémoire de l'eau, c'est assez pour donner de l'eczéma.
Ben, tu sais, le pire de tout ça, c'est que, tu sais, ça peut aller loin. Là. Moi, j'ai encore mes enfants qui me disent de temps en temps, quand il pleut, ça, c'est de l'eau qui a touché les dinosaures, parce que le cycle de l'eau, tu sais, se renouvelle sans cesse et tout ça. Hey, imagines-tu si la mémoire de l'eau... Tu sais, il y a quoi? Là, on a-tu des dinosaures dans l'eau? Là,
ouais.
on rit, mais tu sais, c'est garde. Moi, je pense toujours aux gens qui veulent s'accrocher à quelque chose, puis qui se disent, ben, peut-être que l'homéopathie, ça pourrait venir me donner un coup de main, et ainsi de suite. Mm-hmm. En fait, on est en train de bénéficier de l'effet placebo, là, qui, ben, ça, est ça. Un effet réel. Notre cerveau est capable d'avoir un effet sur notre corps, mais l'effet placebo, là, c'est, faut faire attention. Ouais. Le placebo va pas guérir un cancer, là, donc... c'est ça. On est en train un peu de jouer là sur un tableau là que je trouve. Je trouve qu'on abuse pas mal la confiance des gens là, ouais, quand on parle d'homéopathie.
C'est ça. Puis ça fait en sorte, je lisais un sondage récemment, on peut peut-être leur mettre les chiffres en doute en fonction des questions qui ont été posées là, mais ça disait que 32% des Canadiens sont sceptiques à l'égard de la science. Est-ce qu'on doit être sceptique quand on se fait présenter là une vérité qui est scientifique là? Comment on fait pour départager le vrai du faux là-dedans?
Ben ça, je dirais que c'est peut-être là où le bas blesse, parce que lorsqu'on veut départager le vrai du faux, ben il faut avoir une certaine formation pour être capable d'analyser une étude, de regarder un article scientifique, de dire ben ils ont pas nécessairement respecté toutes les règles de l'art, ouais, quand ils ont fait telle étude, ou celle-là, ah oui, ça c'est bien fait parce que leur échantillonnage est bon, puis ainsi de suite. Et puis tu sais, je pense que c'est aussi le rôle de la communauté scientifique de s'exposer plus dans les médias, d'expliquer plus ce qu'ils font dans leur laboratoire, de présenter au public là ce qu'ils sont en train de faire comme recherche, comme science, pour qu'on entende plus parler. Ouais. Donc c'est pas je pense que c'est plus qu'utile d'avoir des gens qui font la vulgarisation scientifique. Ce serait le fun aussi de voir encore plus les chercheurs qui la font carrément, la science, mm-hmm, qui puissent venir expliquer ce qu'ils font dans leur labo là.
Martin, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Je vous pose la question, est-ce que vous pensez avoir encore quelques centaines d'épisodes de Génial dans le corps?
Je pense que oui, je dis toujours oui. La science se renouvelle constamment, donc j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Puis c'est déjà une super belle aventure d'avoir fait comme ça ces 10 années-là, pourquoi pas une dizaine d'autres, hein?
Excellent. Martin, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous aujourd'hui.
Merci, Martin.
Merci de l'invitation.
Bye-bye. Martin Carly, neuroscientifique, magicien, vulgarisateur, maître des expériences de Génial. Le 400e épisode du quiz est présenté ce soir à 19h du côté de Télé-Québec. C'est Simon Boulris et Émilie Perrault qui sont les invités cette semaine.